Il est 7h.
On vient à l'hôpital pour se faire enlever la vésicule biliaire et on va en réanimation avec la Covid. Nous avons un devoir aujourd'hui d'obliger tous les hospitaliers à se faire vacciner.
À l'heure où de nouveaux confinements locaux pourraient être décidés en Conseil de défense, le Covid est devenu la première maladie nosocomiale. Un tiers seulement des soignants vaccinés, c'est notre dossier dans un instant. Comment la justice fait-elle face à la vague de plaintes parfois tardives dans la libération de la parole sur les violences sexuelles? Avant de recevoir Colline Berry, notre immersion dans ce journal auprès d'un parquet des mineurs. Et puis, quand une légende en rattrape une autre, en football, Cristiano Ronaldo a rejoint cette nuit le roi Pelé, rien que ça. Après ce journal, il nous rejoint l'éclairage éco Nicolas Barré avant le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, on va parler du Yémen qui n'existe plus. La guerre préoccupe Joe Biden, mais il hésite à s'en occuper.
L'édito sport de Virginie Fulpin et enfin nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On a tous eu dans des cours de récréation, peut-être plus tard, des amours platoniques. C'est quand il ne se passe rien. Mais d'où ça vient? Je vais vous le dire dans un instant.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec vous, Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On parlait ici même hier du coup d'accélérateur dans la vaccination. À l'heure où le gouvernement sonne la mobilisation générale, nous sommes de respecter le couvre-feu, reconfinera peut-être de nouveaux départements après le Conseil de défense ce matin. Les soignants à l'hôpital continuent de traîner des pieds. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Les remontées de terrain montrent toujours un taux trop faible de vaccination chez les blouses blanches.
Oui, avant d'avoir les résultats précis d'une étude de Santé publique France au niveau national, la tendance n'est pas très encourageante. Seuls 34% des soignants des hôpitaux de Paris se sont fait vacciner à ce jour. Nos frigos sont remplis de vaccins, c'est une catastrophe, me confie aussi un chef de service d'un hôpital marseillais. Antoine est aide-soignant dans un hôpital de la capitale. Autour de lui, aucun de ses collègues n'a voulu se faire vacciner.
Le principal argument, c'est le manque de recul par rapport au vaccin. Il faut comprendre que les hospitaliers sont à l'image de l'ensemble de la population. Ils ont les mêmes craintes.
Un argument totalement irrecevable pour de très nombreux spécialistes de santé publique qui rappellent que plus de 100 millions de personnes dans le monde ont déjà été vaccinées sans qu'on ait pu observer d'effets secondaires graves.
Et Victor, la conséquence directe de cette faible vaccination chez les soignants, c'est que de plus en plus de monde attrape le Covid à l'hôpital.
Oui, le Covid est même devenu la première maladie nosocomiale. Depuis le début de l'épidémie, 44 000 personnes ont contracté le virus à l'hôpital. Et dans un tiers des cas, c'est un personnel de santé qui est à l'origine de la contamination. Pour François Chaste, président honoraire de l'Académie de pharmacie, cette situation ne peut plus durer.
On vient à l'hôpital pour se faire enlever la vésicule biliaire et on va en réanimation avec la Covid. C'est pas tout à fait normal. Ce vaccin est efficace, il est bien toléré. Donc nous avons un devoir aujourd'hui, c'est non pas d'inciter, mais d'obliger tous les hospitaliers, tous les soignants, mais les médecins en ville aussi bien sûr, à se faire vacciner parce que c'est le seul moyen de réduire, voire d'éradiquer la maladie en quelques mois.
Et il est loin d'être le seul à demander au gouvernement de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, avec un argument qu'ils répètent tous. Quand ils sont recrutés, les personnels de santé ne se posent jamais la question de l'obligation de vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la polio, le BCG et l'hépatite B. Il ne faut donc plus se poser la question pour les vaccins contre le Covid, estime-t-il.
Voilà, le Covid, première maladie attrapée aujourd'hui à l'hôpital, transmise par un soignant dans un tiers des cas. Merci pour ce dossier, signé Victor Dolande.
Dynamique radicalement différente aux États-Unis où le Texas va lever l'obligation de porter le masque et rouvrir tous ses commerces.
Et le président Joe Biden l'affirme. Nous aurons suffisamment de vaccins pour tous les adultes d'ici la fin du mois de mai. Il tablait jusqu'ici sur la fin juillet, alors qu'en Afrique, l'arrivée de vaccins financés par l'OMS s'accélère. Le Nigeria, le Kenya, l'Angola et la RDC ont reçu leur première dose gratuitement grâce au dispositif COVAX.
7h05 sur Europe 1. La réforme des retraites n'est pas à l'agenda social des prochaines semaines. C'est ce que dit ce matin la ministre du Travail. Le contexte actuel, estime Elisabeth Borne, ne se prête pas à la relancer.
Tandis que volet judiciaire, l'ancien président Nicolas Sarkozy poursuit, lui, sa riposte. Contrairement à la pose qu'il adopte en première page du Figaro, il n'a pas l'intention de rester les bras croisés après sa condamnation pour corruption. Interview ce soir aux 20h de TF1 et donc dès ce matin dans le Figaro, Hélène Terzian, avec un ton déterminé.
Oui, officiellement, Nicolas Sarkozy n'est pas un homme en colère. Pourtant, cette colère, on la sent déborder de ses déclarations dans le Figaro. « Je ne peux accepter d'avoir été condamné pour ce que je n'ai pas fait », dit l'ancien président. Il dénonce une injustice profonde, choquante et n'exclut pas de mener le combat jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Nicolas Sarkozy égrène ses arguments, cite le jugement, un document truffé d'incohérences, des bribes de conversations téléphoniques sorties de leur contexte. Il s'interroge sur la partialité de certains magistrats. Son innocence, il l'acclame aussi dans l'affaire Big Malion sur ses comptes de campagne de 2012, pour laquelle il sera jugé dans 15 jours. Et pour ce qui est de son avenir politique, il maintient qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle, mais il prendra bien part à la campagne. Je ferai mon devoir en disant ce que je pense.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
La justice, toujours. Et ce sera l'un des événements sur Europe 1 ce matin. Colin Berry, mon invité en direct. Tout à l'heure à 7h40.
Elle accuse, vous le savez, son père, l'acteur Richard Berry, de fait d'inceste lorsqu'elle était enfant. Et alors que la parole se libère, que les plaintes, parfois tardives, sont de plus en plus nombreuses, on a choisi sur Europe 1 ce matin de se plonger dans le quotidien des magistrats qui traitent ces dossiers. Le ministère de la Justice leur a demandé la semaine dernière d'ouvrir des enquêtes pour toutes les plaintes de violences sexuelles sur mineurs, y compris lorsque les faits sont prescrits.
Pour apporter une réponse à cette parole des victimes, entendre aussi les mises en cause. Mais dans les faits, ces magistrats sont bien souvent submergés et doivent réagir dans l'urgence, comme ceux que vous avez suivis au tribunal de Bobigny, Marion Dubreuil.
Oui, sur l'ordinateur de permanence du parquet des mineurs, les signalements adressés par mail s'accumulent au fil de la journée. Maltraitance, agression sexuelle, viol.
S'il y a urgence à aller récupérer l'enfant, souvent c'est à la sortie de l'école avant qu'il rentre chez lui.
C'est le quotidien de Julie Morel, vice-procureure, et des 9 magistrats qui gèrent actuellement 500 enquêtes ouvertes pour violences sexuelles sur mineurs, dont une poignée de plaintes d'adultes pour des faits subis dans l'enfance.
Il va falloir analyser cette plainte pour savoir si les faits sont prescrit ou pas prescrit, par rapport à la date des faits, de l'âge de la personne, en fonction des différentes lois successives. Même si dès le départ on pense que les faits vont être prescrits, on déroule l'enquête de la même manière. Ça permet d'être reconnu aussi en tant que victime, parce qu'il y a cette enquête qui pourra aboutir à dire que les faits ont été commis, mais que juridiquement, on ne pourra pas poursuivre du fait de la prescription.
La moitié des dossiers de violences sexuelles sur mineurs sont classés sans suite, le plus souvent parce que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, mais c'est impossible de recevoir, comme le voudrait le garde des Sceaux, toutes les victimes. Alors Fabienne Klein-Donati, procureure de la République de Bobigny, accompagne les avis administratifs de courriers individualisés.
C'est à la fois les moyens qu'on s'est donnés pour traiter mieux ces enquêtes-là et ces victimes-là, puis après, l'autre facette, c'est les décisions qui sont rendues.
Le parquet de Bobigny fait de plus en plus appel à l'association SOS Victimes 93 pour qu'elle accompagne les victimes, notamment lorsqu'il n'y a plus de recours judiciaire.
Immersion auprès du parquet des mineurs à Bobigny, signé Marion Dubreuil.
7h08 sur Europe 1. Attention si vous vous apprêtez à prendre la voiture dans le nord de la France.
Circulation alternée en Île-de-France pour cause de pollution de l'air. Seuls les véhicules critères 0, 1 et 2 sont autorisés dans le périmètre de l'autoroute A86. Vitesse réduite de 20 km/h aussi dans le nord, le Pas-de-Calais, l'Oise et la Somme. Alors qu'on connaîtra aujourd'hui les innovations primées par la sécurité routière, c'est un prix annuel qui récompensera 6 initiatives, parmi lesquelles peut-être Aude-Leroy, un dispositif appelé Sentinelle que vous nous présentez pour sécuriser les pilotes de deux roues.
Oui, lors du trajet, 2 caméras embarquées, pas plus grosses qu'une capsule de café, enregistrent les abords du deux-roues, des vidéos transmises ensuite par une antenne, elle aussi miniaturisée, des images indispensables, explique Thomas Bilger, cofondateur de la société SentiDrive, en cas de litige lors d'un accident et aussi bien sûr en cas de chute.
Le boîtier va enregistrer les 8 secondes avant la chute et 8 secondes après la chute. Ces deux fichiers vont être transférés directement par 4G sur notre serveur sécurisé, ce qui nous permettra d'avoir une preuve quelle que soit la situation.
Autre innovation, cette fois pour sécuriser les piétons, vous savez, ceux qui traversent le nez sur leur téléphone. Ce dernier reçoit une notification, une vibration et une alarme en cas de danger grâce à des ultrasons envoyés pile au bon moment par un feu tricolore ou par un bus. Emmanuel Riss est le fondateur de la start-up Copsonic.
Sur les bus de la RATP, ce n'est que lorsqu'ils appuient sur le klaxon que l'on émet l'ultrason, qui peut porter à 80 mètres de distance lorsque le véhicule roule à 50 km/h.
Ce dispositif est testé depuis 3 mois, notamment aux abords de collèges d'Île-de-France, et les ados le trouvent, paraît-il, utile et très fun.
Aude Leroy, c'était un geste d'apaisement recommandé par l'historien Benjamin Stora dans son récent rapport. Emmanuel Macron reconnaît la torture et l'assassinat par l'armée française du militant Ali Boumendjel en 1957 pendant la guerre d'Algérie. La mort de cet avocat nationaliste avait été maquillée en suicide. Le chef de l'État a reçu ses petits-enfants hier soir. En Birmanie, l'armée continue de tirer sur la foule qui dénonce le coup d'État. 3 nouveaux blessés hier. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait se réunir dans 2 jours.
Et on termine avec les sports. Écoutez bien.
Campo aperto per Ronaldo, Ronaldo al limite, Ronaldo carica al sinistro.
Ce que vous entendez, c'est une légende en marche qui en rattrape une autre. Cristiano Ronaldo rejoint Pelé, 767e but hier soir en match officiel lors de la victoire de son équipe, la Juventus Turin contre la Spezia. 767 en match officiel, c'est quand même pas rien. Sur les terrains français, 28e journée de Ligue 1 ce soir à l'affiche notamment Rennes-Lyon à 19h et le choc Lille-Marseille à 21h.
Merci beaucoup Théo Manval, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
On en parlait dans ce journal au mois de janvier et dans la foulée des révélations de Camille Kouchner au sujet d'Olivier Duhamel, Colin Berry dépose une plainte contre son père, le comédien Richard Berry, et son ancienne épouse, Jane Manson. Elle les accuse d'inceste, de viol, d'agression sexuelle et de corruption de mineurs pour des faits qui auraient été commis entre ses 8 et 10 ans. Ce matin, sur Europe 1, la fille de Richard Berry, Colin Berry, son témoignage, sa première interview en direct, c'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu. Que se passe-t-il à la tête de Danone? Son patron, visionnaire et clivant, doit partager le pouvoir sous la pression d'une poignée d'actionnaires. Dure loi du capitalisme.
A tout de suite sur Europe 1, il est 7h11. Le regard international, on vous retrouve, Vincent Hervouette. Vincent, les États-Unis prennent des sanctions contre 2 responsables houthis, les rebelles chiites du Yémen.
Oui, les droits de l'homme redeviennent une priorité des États-Unis. Pour l'instant, il y a 2 traductions concrètes. D'abord, l'émotion bruyante du secrétaire d'État. Anthony Blinken exige que cela cesse immédiatement. Il ne supporte pas la répression en Birmanie, Navalny en prison, le harcèlement des dissidents séoudiens ou chinois ou vénézuéliens. Tout ce malheur à la télé le soir. Malheureusement, rien ne cesse immédiatement. Alors la diplomatie américaine agit. Elle fait des listes de tchéquistes russes, de généraux birmans, de narco-bolivariens, avertis que leurs avoirs aux États-Unis sont gelés et qu'ils seront arrêtés s'ils viennent les chercher. Cette punition ne changera rien à la vie des 2 responsables houthis mis au coin hier pour avoir une fois de plus bombardé l'Arabie saoudite et les navires au large. Ils ne sortent jamais de leur fief.
Joe Biden sanctionne 2 responsables, mais la semaine dernière, il a rayé la milice houthi de la liste des organisations terroristes.
Oui, Donald Trump finissant avait mis la rébellion sur la liste infamante. C'était son cadeau d'adieu à ses amis saoudiens. Joe Biden s'est empressé de faire le contraire. Il a raison. Les organisations internationales ont besoin de parler avec les houthis qui tiennent la moitié du Yémen. L'aide humanitaire est vitale. Il n'y a plus d'hôpitaux, plus de pêche, plus d'agriculture. 16 millions d'habitants ont faim. 400 000 enfants vont en mourir dans les mois qui viennent. C'est le conflit le plus destructeur depuis la fin de la guerre froide. Et le monde s'en lasse. Lundi, l'ONU a fait la quête pour le Yémen. Eh bien, elle n'a pas récolté la moitié du financement espéré.
La guerre dure depuis trop longtemps.
Et elle est trop compliquée. Avec du pétrole, des terroristes, des chiites, des sunnites, toutes sortes de milices tribales. À côté, le Liban, c'est limpide. Ça fait 6 ans ce mois-ci que les Saoudiens s'y sont aventurés. Nom de leur opération, tempête décisive. Eux aussi exigeaient que ça cesse immédiatement. Au lieu de quoi, ils se sont enlisés, discrédités, et ils sont régulièrement bombardés. Depuis un mois, les Houthis se battent furieusement pour prendre la ville de Marib et contrôler tout le nord. Le fiasco sera total. On comprend que Joe Biden s'en préoccupe et qu'il hésite à s'en occuper. Nommer un envoyé spécial et invoquer les droits de l'homme, c'est un début, ça suffira pas.
Vincent Hervouette, Le Regard International. Merci Vincent. 7h20 sur Europe 1, tout de suite, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Qui est pour vous le meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison? Allez, moi je vais tresser quelques louanges à Christophe Galtier, le coach de Lille, leader du championnat.
Et juste avant votre rendez-vous d'histoire, c'est avec Stéphane Bern. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Le leader de Ligue 1, Lille, reçoit l'Olympique de Marseille ce soir. Le nouveau coach marseillais, Jorge Sampaoli, ne sera pas encore sur le banc. Et l'entraîneur qui attire votre attention, C'est Christophe Galtier. Oui, pour vous, le coach lillois est le meilleur depuis le début de la saison.
Alors, il y a une nouvelle mode, vous savez, c'est de critiquer un entraîneur avant même qu'il ait dirigé le moindre match. Bruno Genesio a été nommé hier à Rennes, il en prend déjà pour son grade. Jorge Sampaoli a été fustigé par certains avant que son avion n'ait atterri à Marseille. Mais il y en a un qui résiste au temps et aux tempêtes, c'est Christophe Galtier. Bon, il faut dire que le coach de Lille a assis son équipe en tête du championnat. Il a suscité l'admiration de l'Europe entière quand il a fait gagner ses joueurs 3-0 chez le Milan AC en Ligue Europa à l'automne. Chacun reconnaît sans la patte d'un grand coach. Et même l'élimination contre l'Ajax Amsterdam la semaine dernière ne ternit pas son image, et tant mieux. Parce que Christophe Galtier, c'est un chantre du beau jeu, quelqu'un qui vous donne envie de vous asseoir devant un match de foot. La gagne, oui, mais aussi le jeu et l'esprit du jeu. En plus, ses joueurs adhèrent à son discours, ils les emportent avec lui, et c'est pour ça que ça marche, il sait leur parler et obtenir le meilleur. Si on veut mesurer les qualités d'un entraîneur, c'est bien aussi de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Christophe Galtier a laissé des souvenirs immuables à Saint-Etienne, où il a passé 6 ans, une Coupe de la Ligue et un retour vers les sommets du championnat. Chez les Verts, on dit qu'il a redonné du lustre au club et qu'il représente la meilleure période depuis l'époque Manu France.
Rien que ça.
Ouais, vous savez, l'époque de qui c'est les meilleurs, c'est les Verts.
Pour Saint-Etienne, c'est important.
Ouais, ça vous assoit un coach quand même.
Oui. Ça va un petit peu au-delà de la simple mode, hein, si je vous suis bien, la reconnaissance de Christophe Galtier.
Bah, Christophe Galtier, c'est un tout. Des résultats, oui, mais aussi des qualités humaines, et pas seulement avec ses joueurs. Son discours sur la France meurtrie après l'attentat de Nice en octobre a marqué les esprits. Il s'est aussi poussé des coups de gueule contre Mediapro, par exemple. Ça fait tellement bien de lâcher la langue de bois de l'équipe bien en place pour parler vrai. Il n'oublie pas non plus de saluer les performances de ses adversaires. Il a été le premier à remercier le PSG après sa victoire à Barcelone en Ligue des Champions, parce qu'il s'était régalé devant le match, tout simplement. Pourtant, les Parisiens sont ses concurrents directs dans la course au titre. Il y a 2 points d'écart entre les deux pour l'instant. Il y a un peu plus d'1 an, Christophe Galtier était l'invité d'Europe 1 pour un face aux auditeurs à Lille. Et il y avait eu un vrai échange, des discussions animées, passionnées. Pas du tout de leçon du grand entraîneur au bas peuple. Une des forces de Christophe Galtier, c'est de toujours douter, toujours vouloir apprendre. Alors oui, c'est un chic type qu'on est bien heureux de voir au firmament.
Et les matchs de ce soir ont une importance considérable. Pour revenir au terrain,
Lille-Marseille
pour la course au titre, évidemment, on va suivre ça. Merci Virginie Fulpin, c'est l'édito sport et c'est tous les matins sur Europe 1. Il est l'heure de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand entre deux personnes, quelle que soit la raison, l'amour n'est pas consommé charnellement, une expression s'impose. Vous vous souvenez, dans la télé-réalité, une disait « Un amour platonique, c'est plat et tonique ». Bon.
on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je ne pense pas me tromper en disant que platonique, ça rappelle Platon, le philosophe grec.
Je m'incline, Mathieu, devant votre sens de la
ou
déduction.
Ou la télé-réalité, j'étais perdu.
En fait, vous appelez Mathieu Sherlock Béliard. Bon, oui Mathieu, il s'agit bien de Platon. Mais attention, ce n'est pas ce dernier qui a théorisé cet amour dénué d'accomplissement charnel. Il l'a encore moins encouragé d'ailleurs. En fait, c'est dans Le Banquet, écrit en 380 avant Jésus-Christ, que Platon met en scène une discussion entre lui et des convives. Pour la faire courte, Platon trouve qu'un amour charnel est plutôt naturel, qu'il est même nécessaire pour trouver la vérité, alors qu'autour du banquet, on développe des arguments contraires. C'est en fait au XVIe siècle qu'un autre philosophe, Marcille Ficin, approfondit ce qu'il désignera comme l'amor platonicus. Un amour chaste, poétique, bien loin de l'instinct animal qui nous pousserait forcément à la perpétuation de l'espèce. Vous l'avez compris, le concept devient ici christianisé. Cet amour devient une expression de Dieu, l'alliance chaste de deux âmes divines. Allez, terminons par un peu de légèreté avec un bon mot de Pierre Dac. L'amour platonique est à l'amour charnel ce que l'armée de réserve est à l'armée active. Heureusement qu'on n'a pas inventé l'humour platonique, parce que ça serait vraiment triste.
À 16h tout à l'heure.
L'humour pas consommé, ça donne quoi?
Oui, l'humour pas consommé. Vous avez 4 heures pour réfléchir à tout ça. On vous retrouve à 16h. Historiquement vôtre avec Mathieu Noël, Stéphane.
Oui, cet après-midi, on réunit Victor Hugo, qui convoquait les esprits éclairés des grandes personnalités décédées à sa table. Camille Flammarion, l'astronome, qui croyait en l'existence d'un au-delà qui ne doit pas échapper à la science, et Jimmy Page, vous savez, le leader du groupe Led Zeppelin, qui affirme avoir croisé la route d'un fantôme. Leur point commun, eh ben, on réunit des férus de spiritisme aujourd'hui, avec notre invité spécial qui les convoque dans un livre, le médecin qui fait parler les morts, Philippe Charlier.
Ça fait peur, et c'est non, à 16h tout à l'heure.
Réjouissant, vous allez voir.
7h27, Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Et la douceur s'en va. Alors la douceur, c'est encore... Nous en aurons aujourd'hui, ce sera le dernier jour. 20 à Bordeaux cet après-midi, 20 à Colmar, 18 à Paris, à Limoges, à Nevers, 17 à Besançon, Nancy et Strasbourg, puis 14 à Marseille, 13 à Brest. Donc une douceur exceptionnelle et nos anciens en avaient peur. Ils disaient « Mars trop chaud, mais le printemps au tombeau ». Eh bien là, voilà, ils vont être contents nos anciens s'ils nous entendent.
La douceur s'en va, c'est la bonne nouvelle.
La douceur s'en va et le froid
arrive. On n'est que le 3 mars quand même. Hein. Je veux dire, on ne va pas enterrer le mois de mars tout de suite.
Non, on ne va pas l'enterrer. Mais mars, dès demain, nous allons retrouver un temps beaucoup plus frais, beaucoup plus froid dans les jours qui viennent. Alors la pluie est là. C'est une petite pluie qui arrive. La perturbation se situe entre la basse Normandie, la région nantaise, la Vendée. Puis elle va gagner la haute Normandie. Elle le fait déjà un petit peu. La Sarthe, la vallée de la Loire. Et ce soir, elle sera présente sur la région parisienne. Partout ailleurs, c'est un ciel progressivement voilé, un ciel nébuleux, tamisé, ténébreux. Vous prenez le mot qui convient, selon les secteurs, selon les régions. Il sera particulièrement voilé sur le sud-ouest, le sud du Massif central et la vallée du Rhône, mais partout en France, eh bien, le temps ne sera pas limpide, mais il sera bel et bien quand même ensoleillé, ou en tout cas doux et agréable à vivre. Ce matin, les températures se situent entre 2 et 8 degrés, même 9 degrés à Paris.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est presque 7h30.
Et c'est la question qui préoccupe la plupart des Français en ce moment avec le retour du beau temps et la volonté de s'aérer. Peut-on vraiment être contaminé par le virus en plein air ? Toutes les victimes de crimes sexuels sur mineurs auront bientôt le droit à une enquête, même si les faits sont prescrits. C'est une volonté du ministre de la Justice. La colère des syndicats contre la réforme de l'assurance chômage, le nouveau mode de calcul des allocations ne passe pas du tout. Et puis Astérix sera bientôt de retour sur le petit écran en format série, mais ce sera uniquement sur Netflix.
Juste après ce journal, La Touche Âme, Bertrand Chameau. Roi à 7h40, Colline Berry, la fille du comédien Richard Berry qui accuse son père d'inceste. Elle sera l'invitée du tête-à-tête Europe Matin dans un instant pour sa première interview en direct. L'édito politique, c'est Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu. Pourquoi est-ce que la condamnation de Nicolas Sarkozy va chambouler, peut-être même fracturer la droite pour des années ? Pourquoi ? That is the question.
Juste avant Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale, aujourd'hui Christophe Castaner, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des bords de Garonne, noir de monde à Toulouse, des parcs bondés à Paris. Ces derniers jours, le retour du beau temps, associé à une certaine lassitude d'un couvre-feu dont on ne voit pas le bout, a poussé de nombreux Français à laisser de côté les mesures de distanciation physique pour profiter d'une petite parenthèse.
Des images largement relayées qui pourraient mener le gouvernement à décider de nouvelles restrictions. Un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu à l'Élysée tout à l'heure.
Et bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour.
Alors on se pose la question, quand on est en plein air, est-ce qu'il y a un vrai risque de contamination ?
Alors oui, mais un danger le plus souvent limité. Une grande étude s'est intéressée à la question, chapeautée par des chercheurs américains. Leur conclusion, sur 25 000 personnes atteintes de Covid-19, 6% seulement ont été contaminées en extérieur. Et encore, le plus souvent, lors de rassemblements dans des zones restreintes où la distanciation sociale n'était donc pas respectée. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucune contamination à l'extérieur. Le principe, encore une fois, c'est de respecter au maximum la distanciation et les gestes barrières, explique Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Il faut distinguer deux situations. La première, c'est d'être en extérieur, d'aller dans des jardins, des forêts, où très clairement le risque est probablement extrêmement résiduel. Et deuxièmement, les situations où on va se rassembler lors d'attroupements collés. Et donc on va parler, on va crier, on va chanter, on va postillonner. Et donc on va créer des aérosols de gouttelettes dans des situations extrêmement à risque finalement d'inhalation de ces fameuses gouttelettes, de ces aérosols.
Et d'ailleurs en cas de reconfinement le week-end, ce ne sont pas que ces rassemblements en extérieur que le gouvernement veut limiter. Il vise aussi et surtout les déplacements en vue de rassemblements privés, en famille ou entre amis, qui reste le principal lieu identifié des contaminations au Covid.
Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1, des confinements locaux le week-end pourraient donc être décidés pour les 20 départements placés sous surveillance renforcée. En Guadeloupe, un couvre-feu sera instauré de 22h à 6h du matin à partir de dimanche face à la progression du variant britannique du virus.
Après ce journal, je reçois dans le tête-à-tête d'Europe Matin une invitée exceptionnelle, Colline Berry, la fille de l'acteur Richard Berry qui sera dans ce studio et nous reviendrons sur les accusations d'inceste qu'elle porte contre son père.
Alors, À ce propos, il y aura bientôt des enquêtes systématiques sur les crimes et délits sexuels sur mineurs. C'est la volonté du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il a envoyé une note en ce sens à tous les procureurs de France la semaine dernière.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Le but, c'est que même quand les faits sont prescrits, les dénonciations de victimes ne soient pas laissées sans suite.
Oui, effectivement, c'est une directive qui a des finalités multiples. C'est ce qu'explique le ministre. D'abord, il faut vérifier s'il y a effectivement prescription et ensuite s'assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes et enfin permettre à la personne mise en cause de s'expliquer dans un cadre légal, celui d'une audition ou d'une garde à vue, ce qui permet aussi le respect de la présomption d'innocence. Alors, sur la finalité donnée à l'enquête, le ministre veut également qu'elle soit expliquer. Si le dossier est classé sans suite, notamment, eh bien la justice devra en donner les raisons aux victimes, leur préciser si c'est uniquement parce que les faits sont trop anciens et donc prescrits ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment caractérisés, ce qui, en l'absence de procès, ne délivre pas du tout le même message. Enfin, dans le cas d'une affaire médiatisée, les procureurs devront aussi rendre public les motifs d'un classement sans suite pour mettre un terme à la propagation d'informations calomnieuses.
Merci Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Ali Boumendjel, le militant nationaliste algérien, a bien été torturé et assassiné par l'armée française en 1957 en pleine guerre d'Algérie. C'est ce qu'a reconnu Emmanuel Macron hier. Un nouveau geste d'apaisement pour calmer les tensions autour de la mémoire de ce conflit.
Alors décidément, la réforme de l'assurance chômage voulue par Elisabeth Borne ne passe pas chez les syndicats. Dans leur viseur, le nouveau mode de calcul des allocations qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain.
Oui, ce nouveau calcul aura pour effet de réduire l'indemnisation mensuelle des personnes souvent précaires, qui alternent des contrats courts et des périodes de chômage. Et c'est inadmissible pour François Omeril, le président de la CFE-CGC.
Elisabeth Borne elle-même dit qu'elle a tenté d'adoucir sa réforme, ce qui est une façon d'avouer que sa réforme était très très dure. Mais en vérité, pas grand-chose ne change. Cette réforme est basée sur un point de vue moral qui est de dire que si on baisse les allocations qui sont versées aux chômeurs, ils vont retrouver plus facilement du travail, ce qui est faux et c'est scandaleux de le prétendre. Donc cette réforme, si elle s'applique, elle va s'appliquer visiblement, eh bien elle reste en tout point pour nous définitivement inacceptable.
François Omeril avec Olivier Samin. Alerte à la pollution aux particules fines. Aujourd'hui en Île-de-France, la circulation différenciée est mise en place au moins jusqu'à minuit. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère 0, 1 et 2 sont autorisés à rouler et les vitesses maximales sont réduites de 20 km/h.
Et puis le secret était bien gardé, au moins aussi bien que celui de la potion magique. Une série basée sur les aventures d'Astérix est en cours de préparation pour Netflix.
Et le géant du streaming s'est associé aux éditions Albert René. C'est ce que révèle le journal Le Parisien ce matin. La série animée en 3D reprendra l'album Le Combat des Chefs, où le druide Panoramix perd subitement la mémoire après avoir reçu un menhir sur la tête. Et devinez Mathieu, qui sera à la réalisation de ce futur chef-d'œuvre ?
Je sais, je connais la réponse.
Pas construite en un jour. La verrai quand cette merveille ? Dans 3 siècles ?
Dans 3 mois.
Vous aurez reconnu Alain Chabat, évidemment, alias César dans Mission Cléopâtre, on l'entend. Alors il faudra attendre un peu plus de 3 mois pour pouvoir profiter de cette série. Sa diffusion est prévue en 2023.
Merci beaucoup, on a hâte.
Ça
va être un bon succès, ça, il n'y a aucun doute, évidemment. Dès qu'on touche à Astérix, de toute façon, ça marche. Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Il est 7h35.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Christophe Castaner, qui affirme que le Rassemblement National est un danger pour la République, Marine Le Pen se défendait hier matin sur Europe 1. Argument de feignasse, disait-elle. Eh bien, à 8h15 tout à l'heure, la réponse du président du groupe LREM, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur. C'est l'invité politique de la matinale. Il va répondre aux questions de Sonia Mabrouk. Le tête-à-tête Europe matin dans un instant avec Colline Berry, la fille de Richard Berry, qui accuse son père de violence sexuelle. Ici, en studio, avec son avocate Karine Chebabo dans quelques toutes petites minutes. Mais d'abord, il est là, Bertrand Chameroy, vous l'entendez arriver, la touche. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ça y est, nous savons enfin pourquoi l'épidémie a connu un rebond cet été grâce aux révélations du professeur Raoult.
Ah, je crains le pire. À tout de suite sur Europe 1, 7h36.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors ce matin Bertrand, vous nous en dites plus sur la situation sanitaire.
Oui, c'est vraiment ma marotte du moment, j'y pense jour et nuit, je lis tout ce qu'il peut s'écrire sur le sujet. C'est donc armé de mon économe que j'ai épluché la presse. Et la dernière déclaration de Jean Castex m'a complètement tourneboulé, j'en suis tombé de l'armoire. Lors d'une réunion hier du groupe avec des députés de La République En Marche, le Premier ministre a prévenu, je le cite, les semaines qui arrivent vont être difficiles. Ben voilà. Voilà, ça nous pendait où nez. Qu'est-ce que vous voulez ? On peut pas être heureux indéfiniment. Des mois qu'on se la coule douce, peinard, mais là, cette fois, ça y est, fini la belle vie. J'espère que tout le monde a bien profité, hein, parce que les semaines qui arrivent vont être difficiles. On se sera quand même bien amusé jusqu'ici. Hein. Ah, le couvre-feu, les confinements, les masques, les points de situation, les attestations, les réas saturés. Toute cette insouciance, cette légèreté. Depuis un an, là, on est dans un tunnel de plaisir, de kiff, de régal, la fête à tous les étages. Fallait bien que ça s'arrête à un moment. Je sais pas pour vous, Mathieu, mais perso, ça va me manquer cette bonne ambiance. Je suis déjà nostalgique.
Alors toujours à propos de Covid, Bertrand, on en sait plus sur les origines de la deuxième vague.
Oui, enfin, nous savons des révélations que nous devons à mon YouTuber préféré. Je ne parle pas de Norman ou de Squeezie, mais du professeur Raoult qui a publié hier sa nouvelle vidéo.
À l'occasion d'une petite investigation qu'on a fait, d'un coup, nous, les gens nous ont dit, vous savez, samedi soir, on est tous allés ensemble et on est allés fumer à chicha.
La chicha serait donc à l'origine du rebond de l'épidémie chez les jeunes, hein, car c'est bien connu, ils fument tous la chicha, ces jeunes, je te jure. C'est le résultat d'une petite investigation du professeur, comme il dit. J'aurais beaucoup aimé le suivre sur le terrain. Quel est ce long tuyau là, que vous passez de bouche en bouche sur la plage là, ça fait cracher une sorte de buée qui dégage une odeur de sapin magique là, un mélange fraise, pomme, fruit de la passion. C'est une chicha, professeur. Ah, je note, c'est un truc de jeune. Oui, entre autres. Allô, préparez le studio là, je dois tourner une nouvelle vidéo. Je sais pourquoi l'épidémie a explosé chez les 25-45. Alors, c'est sûr que se passer le même embout de bouche en bouche, c'est pas ce qu'on a fait de mieux au niveau geste barrière, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont le professeur parle de la chicha. On dirait qu'il a découvert ça hier.
Les maladies infectieuses, j'écrivais ça, que sais-je, qui a presque 30 ans maintenant, c'est toujours lié à l'usage d'une nouvelle technologie ou un changement d'écosystème.
Ah, la chicha, cette nouvelle technologie, l'iPhone du tabac, c'est tout récent. Moins 10 000 avant Jésus-Christ, la première. À l'échelle de l'histoire, c'est quoi? C'est hier. Et le professeur d'expliquer qu'il connaissait les pétards, mais...
J'avais pas réalisé l'ampleur qu'a pris la consommation de chicha.
Il n'avait pas pris conscience de l'ampleur de la conso de cette nouvelle technologie qu'est la chicha, oui.
Un nouvel écosystème.
Jusqu'ici, il pensait que c'était une chanson de Daniel Balavoine.
Non.
Si. La chicha, je te veux, si tu veux le moi. Oui, ce sera la chute de ce papier, elle vaut ce qu'elle vaut, mais écoutez, les semaines qui arrivent seront difficiles, mais on va les surmonter avec du Balavoine dans la tête, c'est toujours ça de prix.
C'est la toucha, mais c'est tous les matins à 7h40 sur Europe 1. Merci mille fois à Bertrand Chameroy, à demain en ce qui me concerne, mais à tout à l'heure, 10h, dans Culture Média, avec Philippe Vandel et toute son équipe. Merci Bertrand, il est 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Vous êtes sur Europe 1. La libération de la parole, les dossiers d'inceste et un cas qui a fait couler beaucoup d'encre. Colline Berry, fille du comédien Richard Berry. Elle accuse son père et son ex-épouse d'inceste, viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Elle avait entre 8 et 10 ans à l'époque des faits qu'elle décrit. Ce matin, c'est sa première interview en direct. Nous sommes avec Colline Berry et son avocate Karine Chebabo. Elles sont mes invitées.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et merci d'être en studio avec nous. Alors, je le disais, c'est votre première interview en direct, c'est sur Europe 1 ce matin, je vous en remercie. Vous avez préféré être accompagné de votre avocate simplement d'un mot ce matin, pourquoi ? Ça vous rassure ?
Oui, bah oui, effectivement, je suis pas rompue à cet exercice-là du tout, Oui, ça me rassure.
Et je voulais vous poser la question, maître, hein, c'est une exposition aussi soudaine, c'est une pression nouvelle, ça révèle des fragilités peut-être qu'on soupçonne pas ?
Des fragilités de qui ?
Sur la personne qui témoigne. C'est difficile de parler. On parle de libération de la parole, on se lance sur ce sujet-là.
Effectivement, mais je ne parlerai pas de fragilité. C'est-à-dire que nous, le tribunal médiatique dont on entend parler, on le subit. Et donc on est obligé de venir ici pour défendre une parole.
Alors là, je comprends très bien d'un seul coup pourquoi vous vous êtes arrêté sur le mot fragilité. Évidemment, alors vous avez décidé de porter plainte contre votre père pour des faits qui remontent à votre enfance. Vous avez 45 ans aujourd'hui. Et je disais, vous avez décidé de prendre la parole aussi pour ne pas laisser dire que vous êtes instable. C'est quelque chose qui vous a agacé profondément.
Oh, c'est pas de l'agacement, c'est encore une agression. Alors déjà, je précise que les faits, vous situez mon enfance, mais c'est pas entre mes 8 et mes 10 ans. Ils ont commencé avant et ils se sont perpétrés après.
C'est important de le souligner.
Voilà. Et oui, enfin instable, si vous voulez, c'est encore une fois essayer de me dénigrer, de me faire taire, enfin voilà, ça pourrait être instable, mais ça pourrait être aussi une autre qualification, mais. Voilà, je n'ai pas du tout la sensation d'être instable.
Comment est-ce que vous vivez cette remise en question de la parole ? Beaucoup de victimes peuvent la connaître. Là, on est aussi face à un homme qui est un homme public, avec des réseaux, des soutiens.
Je le conçois comme une posture de défense. Voilà, c'est compliqué de toute façon pour n'importe quelle personne coupable d'avouer et de voilà. Donc c'est d'abord le déni et en plus c'est discréditer la personne qui vous accuse. Donc voilà.
Maître.
Et si je peux compléter, on n'est pas du tout dans un débat parole contre parole. Nous, on a un dossier. On a 8 heures d'audition devant la brigade des mineurs. C'est pas rien. Donc, on a plus qu'une simple parole.
Quelle importance a cette annonce du garde des Sceaux la semaine dernière, Éric Dupond-Moretti, qui a demandé au procureur de systématiquement ouvrir une enquête, même si les faits sont susceptibles d'être prescrits?
Bah, je trouve ça important, surtout effectivement pour des gens de ma génération qui ne sont pas concernés par la nouvelle loi puisqu'il n'y a pas de rétroactivité. Donc ça permet déjà dans un premier temps de pouvoir être entendu et de déposer sa parole. Voilà. Donc,
oui. il faut que ces plaintes puissent être quoi, traitées, maître ?
Oui, il faut qu'il y ait une régulation judiciaire. Là, il faut que notre société, notre système judiciaire soit à la hauteur de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est une parole qui existait mais qui n'a jamais été entendue. Elle était dite, mais elle n'était pas entendue. Donc pour que on puisse revenir à une paix sociale, il faut qu'on puisse recueillir cette parole, il faut que l'autorité, donc le tiers, intervienne et régule. Et là, je me félicite de cette avancée.
Et s'il n'y a pas de poursuite derrière, il faudra pouvoir l'expliquer justement aux plaignants, expliquer si c'est parce que les faits sont prescrits, les années sont passées, ou si c'est parce qu'on est sur un classement, parce qu'on manque d'éléments.
Oui, mais avant de dire qu'il n'y a pas de poursuite, le travail du parquet, et je tiens quand même à le rappeler, c'est d'abord de vérifier la question de la prescription. Il y a énormément d'actes qui peuvent interrompre une prescription. Là, par exemple, en l'espèce, on ne sait pas du tout si M. Richard Berry a été impliqué dans d'autres affaires qui auraient pu montrer qu'il y a eu des actes interruptifs de prescription. Il faut ensuite vérifier s'il n'y a pas d'autres victimes. Richard Berry, il a une petite fille de 6 ans, donc ça aussi, il faut le vérifier. Donc, il y a quand même un travail à faire là dans le cadre de cette enquête. Et la prescription, elle n'est pas acquise de fait.
Et il faut bien comprendre que ces dossiers sont extrêmement compliqués parce qu'on met du temps à parler. Colline Berry, pourquoi est-ce que vous avez attendu toutes ces années pour rendre la chose publique, pour déposer plainte ?
Bah, c'est pas une attente, hein, en fait. C'est parce qu'il y a un moment donné où ça devient... Il n'y a plus d'autre solution, parce qu'avant, ça m'était... C'est difficile de libérer cette parole justement que je c'est la peur de mon père, c'est la peur de blesser la famille, c'est la peur de plein de choses, c'est des prises de conscience qui grandissent au fur et à mesure, et puis c'est le continuum d'une souffrance qui ne fait que s'additionner avec les années et qui fait qu'à un moment ça devient plus possible, ouais.
Vous avez parlé de besoin vital de porter plainte. Je vous cite, hein, c'est quasiment une maladie que vous décrivez. Vous parlez de douleur, bien sûr, d'effets secondaires. C'est un ressenti physique.
Ah là, oui, ça a été un moment presque paroxystique où là, je me suis vraiment sentie ne pas avoir le choix que de faire ça, quoi. Voilà.
Vous assumez la particularité de la notoriété dans cette affaire. Vous avez été, vous l'avez dit, inspiré par Camille Kouchner, la fille de Richard Berry que vous êtes. Vous assumez ce rôle aussi que vous pouvez avoir peut-être pour des victimes anonymes, mais la célébrité, c'est aussi voir sa famille sur tous les plateaux, c'est voir d'autres noms. J'ai même vu Yann Moix prendre la plume. Votre nom, Berry, finalement, il ne vous appartient plus ce matin.
Déjà, en tant que fille d'eux, oui, votre nom, déjà, il vous appartient pas spécialement. Hein, c'est déjà compliqué. C'est pas tellement la question. Enfin, c'est surtout moi, mes enfants, qui m'ont préoccupée, évidemment, dans cette histoire de médiatisation. Mais j'ai pas le choix. Enfin, je veux dire, ma plainte, elle a fuité, elle est sortie comme ça. Des journalistes sont venus me poser des questions. Donc je savais, oui, qu'à un moment, de toute façon, il fallait que je m'expose. Et peut-être aussi profiter de cette exposition pour ajouter au débat et à ce qui est en train de se passer dans la société, parce que j'avais la possibilité de m'exprimer aussi.
Maître Karine Chebabo, je vous ai entendu dans une interview expliquer que vous étiez au courant de ces faits depuis des années. C'est un peu vague, des années. Qu'est-ce qu'on conseille à une victime dans ces cas-là? De se dépêcher d'aller porter plainte? On respecte aussi son silence? Comment ça marche quand on est dans ce silence-là et dans ce secret-là?
Alors, la première des choses à faire, c'est justement de l'informer sur l'état du droit et ses possibilités qui sont les siennes. Je voudrais préciser une chose, c'est qu'en matière d'inceste, l'enfant, quand il est abusé, il n'a pas la capacité de comprendre ce qui est en train de lui arriver. Et c'est pour ça qu'il faut du temps. C'est-à-dire que quand on a 6, 7, 12 ans, en fait, on croit que c'est normal ce que fait papa. On pense que c'est comme ça dans toutes les familles. Et il faut qu'on ait 17, 20 ans, qu'on ait éventuellement son premier enfant quand on est une femme, pour réaliser. Et il y a tout ce chemin-là à parcourir. Et donc moi, en qualité d'avocat, bien évidemment, c'est aussi un travail d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut que ma cliente, que ça vienne d'elle, qu'elle soit prête à agir en justice.
Colline Berry, dans vos souvenirs, vous avez cru que c'était normal ce que vous viviez ?
Certaines choses, oui. Oui, je ne voyais pas en quoi c'était déconnant. Oui, c'est le recul, c'est parfois en allant tout simplement chez mes amis et en voyant bien que les parents de mes amis ne se comportaient pas de cette façon, en voyant aussi la réaction de mes amis quand ils étaient avec moi chez mon père. C'est une prise de conscience progressive. Après, sur la mesure de la gravité de ce qui s'est passé, c'est surtout avec l'aide d'une psy que j'ai réussi à poser des mots dessus, parce qu'entre ce que je ne supportais pas et ce que j'ai cherché à éviter en refusant de voir mon père quand j'ai eu 10 ans, mais il y a plein de choses que j'ai... dont je ne mesurais pas, oui, la gravité. Oui.
Cette interview, vous le savez, hein, c'est votre, je le disais, première prise de parole en direct. Cette interview, forcément, elle va lui arriver aux oreilles. Vous lui dites quoi ce matin ?
Ben, je lui dis quoi ? Je lui dis, si j'en suis là, c'est que j'attendais plus rien de lui, que j'ai compris qu'il n'était pas capable de répondre à ma demande de reconnaissance des faits, de qualification des faits, que c'est voilà, toujours dans un paradoxe d'amour et de souffrance, que c'est toujours mon père et je l'aime, mais que c'est pas parce qu'on fait des choses monstrueuses à un moment qu'on est un monstre. Donc voilà, moi la porte, la main, je lui ai tendue des dizaines et des dizaines de fois dans le privé. J'espère que peut-être par ce biais du tiers, de l'enquête, d'une autorité, arriver à un moment donné à une paix, quoi.
C'est mon père et je l'aime. Vous dites que c'est important ce matin. Dans ce dossier, on peut comprendre à quel point c'est compliqué. Vous êtes prête à pardonner, Colline Berry ?
Ah, mais bien sûr. Bien sûr, je suis prête. Je lui ai toujours dit que j'étais prête à lui pardonner. Maintenant, il est d'ailleurs, il m'a demandé pardon. Là, il nie les faits en bloc, mais c'est pas la réalité. Hein. Ce qu'il a du mal à assumer, c'est sa responsabilité, en se défaussant soit sur Jim Manson, soit machin, soit sur d'autres personnes, et en surtout en refusant cette association de l'inceste, et comme s'il mettait ça sur le compte d'un crime et de la pédophilie, quoi. C'est surtout ça qu'il a refusé d'accepter, et donc forcément la souffrance que ça a pu générer chez moi. Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci d'être venu témoigner toutes les deux, maître Karine Chevabeau, avocate.
Merci à vous.
Colline Berry en studio avec nous ce matin pour ce témoignage. Tout le monde comprend que c'est pas facile de témoigner, de raconter ces histoires si intimes, et en même temps ces dossiers on les suit et on continue d'avancer sur cette question de la libération de la parole, le hashtag #MeTooInceste notamment, mais pas seulement. Merci à toutes les deux, hein, d'être venues témoigner en direct ce matin dans le studio d'Europe 1. Il est 7h53, dans quelques toutes petites secondes on retrouve Nicolas Bétou pour l'édito politique. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h54, l'heure de retrouver Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Je recherche évidemment mon texte, je me suis perdu dans mes feuilles ce matin décidément.
On parle de l'après-condamnation de Nicolas Sarkozy.
Ah oui, et la question que ça pose.
Est-ce que ça va rebattre les cartes à droite, vous demandez-vous ?
That is the question.
Eh bien oui, sans aucun doute. Ses proches parmi les proches expliquaient jusque-là que l'ancien président de la République n'avait que deux scénarios à l'esprit pour 2022, soit être candidat, soit être celui qui, dans un second tour face à Marine Le Pen, amènerait la droite à Emmanuel Macron et qui ainsi renforcerait son influence sur le quinquennat suivant. Bon, évidemment, tout ça a volé en éclats. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Nicolas Sarkozy n'a plus à ce jour les moyens d'espérer être candidat. Et d'ailleurs, il l'admet clairement.
Oui, dans son interview au Figaro. Alors, est-ce qu'il lui reste l'arme de l'influence sur sa famille politique en particulier ?
Oui, mais à la baisse. Et même si Nicolas Sarkozy promet qu'il exprimera clairement sa préférence, cette influence donc est à la baisse. Je vous livre la réflexion que m'a confiée un des candidats potentiels de la droite. Les sarkozystes purs et durs, m'a-t-il dit, ne pourront plus continuer à travailler sur un ralliement de la droite. Droite à Macron, ils ne pourront plus semer le doute sur la solidité de nos candidatures. Bon, ceux qui avaient déjà pointé le nez ou carrément posé le pied sur la ligne de départ se sentent à l'évidence un peu libérés du poids de cette tutelle. L'un d'eux me disait d'ailleurs qu'il pensait que ça allait faire éclore des ambitions parmi ceux qui savaient jusque-là qu'il se ferait allumer par l'ancien chef de l'État s'il sortait du bois.
Alors qui, selon vous ?
Ben, y a bien sûr Xavier Bertrand, aujourd'hui le mieux placé à droite dans les sondages, et puis Valérie Pécresse. Tous les deux ont d'ailleurs rivalisé de formules de soutien à l'égard du condamné Sarkozy. Amitié, respect, laver son honneur, faire la vérité. Prudence, prudence, on ne sait jamais, ça peut servir. Et puis il y a Bruno Retailleau, que l'ancien chef de l'État n'a jamais vraiment apprécié et qui devrait retrouver un peu d'oxygène. Et puis il y a, pourquoi pas, Laurent Wauquiez, même si ça semble improbable. L'ancien patron des Républicains sera sans doute très bien réélu à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça peut ouvrir l'appétit. Alors le risque, évidemment, pour la droite, ce serait que cette absence du boss ombrageux et tutélaire se traduisent par une guerre des chefs.
Avec une primaire ou une procédure de départage, comme ils disent, une primaire à la clé ?
Si aucun homme providentiel ne s'impose, oui, on pourrait alors voir deux camps, deux stratégies se détacher et s'opposer. La droite de ceux qui accepteraient de pactiser avec Emmanuel Macron et celle qui ne le voudra pas. D'un côté, un Christian Estrosi, par exemple, et de l'autre, un Xavier Bertrand, opposant radical. Deux stratégies pour le deuxième tour et pour l'après. Deux visions radicalement différentes de ce qu'est l'avenir de la droite, désormais chamboulée par la condamnation de son dernier occupant de l'Élysée.
Votre édito tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h, c'était Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Merci Nicolas. Et on retrouve Nicolas Canteloup, à présent, qui conseille tous les matins à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, député des Alpes de Haute-Provence. Et c'est Jean Castex qui est venu lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Pétou, bonjour Monsieur Béliard.
Monsieur le ministre.
Vous avez lu le Figaro de Castaner. Ah, il a une très bonne note. Ah ben écoutez, je lis l'article. Alors attendez, il est où l'article ? Où sont mes lunettes ? Voilà. L'atterrissage réussi de Castaner à l'Assemblée nationale. Ah, il est pas bon, il est très bon le Casta. Alors. Est-ce qu'il y a un lien avec la fermeture des boîtes de nuit depuis un an ? Sûrement, cela doit jouer qu'il fasse ses nuits. Mais non, franchement, je ne sais pas comment il fait Castaner pour mettre tout le monde d'accord, Monsieur Bétou. Parce que c'est un bazar de mon côté. Darmanin qui pousse la gueulante sur les menus sans viande. J'ai la Barbara Pompili qui dit « Vive les brocolis !» J'ai la Frédéric Vidal qui sort de son coma pour dénoncer l'islamo-gauchisme. Je ne les contrôle plus. Bon, vous me direz, je ne les ai jamais contrôlés. Et je ne vous ai pas dit le meilleur. Macron, le président de la République, qui nous dit de tenir 4 à 6 semaines pour voir quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On n'en sait rien, mais on ne peut même pas l'engueuler. C'est lui le patron.
C'est signé Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h45 pour la revue de presse. Christophe Castaner au micro de Sonia Mabrouk à 8h15 tout à l'heure. 7h59 à suivre. La météo et l'info sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
La pluie est arrivée par la Bretagne, elle est en Vendée en ce moment, elle se dirige vers Dinard et elle va gagner, elle gagne déjà en ce moment le premier de la presqu'île du Cotentin. Partout ailleurs en France, hormis même la région parisienne sera touchée par la pluie, je le dis tout de suite, mais en fin de journée. Partout ailleurs, ce sera un ciel voilé avec des températures qui sont dans l'ensemble extrêmement douces encore, c'est le dernier jour, profitez-en, entre 14 et 20 degrés.
Merci Laurent Cabrol, vous êtes sur Europe 1, bon réveil.